Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir, komm mit mir aus bloß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir, vous êtes voilà, là on y arrive. Excusez-moi, bonsoir de vous accueillir comme ça en bredouillant tout de suite dès la première minute, la première seconde même. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, aujourd'hui de 17h à 18h30, comme d'habitude le mercredi. Et vous pouvez nous retrouver, je vous le rappelle, histoire que parfois vous auriez oublié, à 23h ou bien à 11h le jeudi matin. Et que si vous le désirez, vous pouvez toujours nous appeler en direct pendant notre émission, puisque nous sommes en direct de 17h à 18h30 seulement, attention. Vous pouvez nous appeler au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse voisine Genève et les environs. Aujourd'hui, eh bien, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous en direct Denise Gillian. Denise Gillian, bonsoir.
Bonsoir.
Denise Gillian qui est réalisatrice d'un film que nous avons pu découvrir à quelques-uns en priorité. Il y a un mois et demi,
c'était
comme ça.
C'était le 27 octobre.
Voilà. Et nous avions pu découvrir ce film qui a pour titre en français « Mon père, cet ange maudit ». Mon père, cet ange maudit, c'est raconté en deux mots. C'est l'histoire d'une femme et c'est l'histoire d'un homme. Cette femme, c'est la fille de l'homme. Et l'homme, c'est un prisonnier et qui est condamné à de très lourdes peines, au point qu'il pense qu'il risque d'être condamné à perpétuité dans la prison. Et c'est avec Denise Gillian que nous allons découvrir pourquoi elle a réalisé ce documentaire, parce que, précisons-le, c'est sous la forme du documentaire qu'a été réalisé ce film. Pourquoi ce film a été fait, comment il a été fait, quelles intentions, la rencontre des personnages, parce que c'est un film extrêmement touchant, impressionnant, émouvant. Quand je suis ressortie de là et tout au long du film, on a vraiment l'estomac qui se serre à plein de moments devant la sincérité des personnages qui font une démarche qui a été peut-être, et c'est ce que nous découvrirons avec Denise Gillian, peut-être suscitée par la réalisatrice, mais qui bien sûr a été fait par les personnages eux-mêmes et qui ont accepté devant la caméra de dévoiler une immense part d'eux-mêmes. Alors, peut-être Denise, tout de suite, il faut rentrer dans vos intentions. Moi, quand j'ai vu votre film, en plein dans le film, je me disais, mais ce film n'est pas l'histoire d'Angelo, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, ce père prisonnier. Moi, je trouvais que sa fille, Sabrina, était de façon tellement plus présente dans le film que je me suis dit, pour moi, c'est l'histoire de Sabrina. Et puis, vous nous aviez dit, en nous présentant votre film, c'est un peu pour moi l'occasion de parler de choses qui me préoccupent depuis longtemps, une vingtaine d'années. Alors finalement, c'est l'histoire de beaucoup de gens, ce film. C'est l'histoire, bien sûr, d'Angelo et de ce prisonnier qui, aujourd'hui, après de nombreuses années passées à la prison de Bochu, a découvert la peinture et pratique beaucoup la peinture, donc espère se réinsérer une fois, peut-être, à l'extérieur. Et puis, c'est votre histoire aussi, avec toutes les intentions que vous y avez mises.
Alors, c'est vrai que j'ai commencé par m'intéresser avant toute chose à l'histoire d'Angelo. Et cela vient du fait que j'ai rencontré Angelo avant de rencontrer Sabrina et avant que lui-même ne rencontre sa fille. Donc, mon intérêt se portait vers lui. Et c'est vrai que, bon, on n'a pas tous les jours l'opportunité d'entrer dans une prison, de rencontrer des détenus. Au moment où j'ai rencontré Angelo, lui venait de commencer à peindre et moi j'avais une galerie de peinture. Donc en fait, j'ai appris à le connaître en l'exposant tout d'abord. Et un an après que je l'ai rencontré, lui a eu envie de prendre contact avec Sabrina, qu'il n'avait pas reconnue jusqu'à ce moment-là. Et en fait, j'ai assisté, moi, de loin, aux retrouvailles entre Angelo, à cette première rencontre entre Angelo et Sabrina. Et forcément, quand Sabrina s'est mise à découvrir ce père qui lui est tombé dessus d'un jour à l'autre, moi, je me suis identifiée à Sabrina. Et toute la démarche que j'ai pu faire envers Angelo, d'aller le voir en prison, de l'exposer, de lui donner les moyens dans un premier film, de lui permettre de communiquer avec l'extérieur, de m'intéresser à sa vie, Sabrina l'a fait. Elle, un an plus tard, et bon, évidemment, pour elle, c'était une toute autre démarche parce qu'elle est sa fille. Mais là, l'identification avec elle a été très forte. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire d'Angelo vue à travers les yeux de sa fille.
Mais tout d'abord, comme vous le disiez, vous avez fait un premier film à propos d'Angelo. Qu'est-ce qui vous attirait dans la situation d'Angelo? C'est le fait qu'il était prisonnier?
Oui, alors j'ai toujours été attirée par les marginaux, les gens exclus, rejetés. Qu'ils soient drogués, punk, handicapés, tous les gens qu'on isole, en fait, je trouve que c'est important de les voir, de mieux les connaître, d'en parler plus. Et en tant que cinéaste, c'est un peu mon métier aussi de leur permettre de s'exprimer. Donc bon, et la prison, c'était une vieille histoire. J'avais eu l'occasion à l'âge de 17 ans de visiter une prison mexicaine. Et j'en avais gardé une drôle de sensation. J'avais découvert dans cette prison qu'on pouvait être à la fois assassin et fort sympathique, par exemple. Et à 17 ans, ça m'avait bouleversée. J'arrivais pas bien à me situer par rapport à ça. Donc quand on m'a présenté Angelo, toutes ces questions ont ressurgi. Et c'est vrai que j'ai eu envie de le connaître mieux parce qu'il représentait à la fois l'univers carcéral, une destinée hors du commun, complètement marginale. Et j'avais envie de comprendre quelle avait été sa trajectoire, quelles étaient ses valeurs, qui il était.
Et ça, c'est une chose qu'on peut faire facilement parce qu'il y a malgré tout un rapport quand même particulier, j'imagine, qui doit s'instaurer entre la personne qui vient de l'extérieur, qui rentre dans la prison mais qui en ressort, et celui dont on sait qu'il est là pour de très nombreuses années.
Oui. Alors, c'est relativement facile. Ça a été relativement facile d'établir un contact avec Angelo parce que comme ça faisait 14 ans, 15 ans qu'il était incarcéré, il avait besoin de parler, de communiquer, de rencontrer des gens. Donc, il était très ouvert à toute visite, à toute conversation. Et en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment le rencontrer, à le connaître. C'est pas quelque chose qui s'est passé en quelques mois. Je l'ai rencontré en 89 et on a fait le film en 93. Hein, donc les choses se sont établies petit à petit, d'abord à travers la peinture, ensuite à travers de nombreuses visites informelles, plus amicales qu'autre chose. Et de fil en aiguille, on a commencé à parler film.
Et les autorités pénitentiaires ne voyaient pas d'inconvénient à ce que vous interveniez dans sa vie et dans la vie de la prison, bien évidemment?
Alors, ils m'ont donné les autorisations.
Dans un premier temps, je ne parle pas forcément pour le film, mais déjà, votre première rencontre avec Angelo.
Non, alors la première rencontre avec Angelo a été simple, dans la mesure où j'ai été invitée à suivre une répétition d'un atelier théâtral qui avait lieu à Beauchu. Un metteur en scène français, Serge Sandor, était invité à monter un spectacle à Beauchu. Et Serge Sandor m'a invité un après-midi à venir voir une répétition. Donc c'était dans un cadre culturel que je suis entrée pour la première fois en prison. Et ensuite, bon, ben, n'importe qui peut demander à obtenir une visite pour tel et tel.
Ah, parce que vous voulez dire qu'au début que vous avez rencontré Angelo, vous l'avez rencontré comme quelqu'un qui va voir un ami ou un membre de sa famille. Vous n'avez pas demandé une autorisation comme réalisatrice ou comme cinéaste.
Voilà, c'est ça, oui. Mmh. Et on me l'a présenté, donc la démarche était facilitée. Je n'ai pas fait moi la démarche d'aller rencontrer Angelo. J'ai fait la démarche d'aller voir une répétition de théâtre en prison et on m'a présenté Angelo. Alors ensuite, oui, bien sûr, j'ai fait les demandes d'autorisation pour avoir droit à des visites personnelles, comme tout autre visiteur, comme les familles, les amis.
Ce qui est un chemin, semble-t-il, difficile. D'après ce que nous venons d'entendre, beaucoup de gens ici à Genève ont été très mobilisés par l'incarcération d'un de nos amis très chers en prison pendant plus de 3 mois, sans raison. Et entre autres, les difficultés qu'a rencontrées sa compagne pour aller le rencontrer, ça paraît très, très évident. Alors, est-ce que c'était le cas pour vous? Alors, ou facilement, vous avez pu obtenir ce droit de visite?
Non, mais je l'ai obtenu facilement, ce droit de visite. Bon, bien sûr, ça prend du temps, il y a vérification de qui on est, quels sont nos antécédents judiciaires, s'il y en a, etc. Mais à partir du moment où le premier permis est donné, c'est relativement simple, par contre très désagréable, hein, parce que bon, on ne choisit pas les horaires, on est dans un grand parloir où il y a beaucoup de gens en même temps, Il y a beaucoup de bruit, pas d'intimité du tout. Et c'est vrai que c'est assez dur de ressortir. Hein, au moment où on passe le portail, on s'en va, on sent qu'on laisse les gens derrière soi qui sont enfermés.
Parce que tout à l'heure, vous avez dit l'intérêt qu'Angelo pouvait porter à parler à quelqu'un, mais vous n'avez pas dit ce que vous ressentiez justement à entrer et ressortir de la prison.
C'est très très dur d'entrer et sortir. Les portes, les barrières, les contrôles, les grillages. Et puis malgré tout, on est enfermé aussi, soi-même, en étant à l'intérieur du parloir. Les portes sont fermées. Si on veut aller aux toilettes, par exemple, il faut demander l'autorisation. Il faut qu'un gardien nous vous ouvre trois portes.
Donc vous avez eu la sensation aussi, vous, de l'enfermement.
Oui. Mm-hmm. Mais ça dure qu'une heure et demie. Enfin, c'est très court.
Et puis, alors, de cette première étape de votre rencontre avec Angelo, il est sorti déjà quelque chose de concret ou c'est resté un dialogue entre personnes qui se connaissent avant que vous imaginiez le film?
Alors, le premier contact avec Angelo a abouti sur une exposition de peinture. Lui venait de commencer à peindre, j'avais une galerie de peinture, donc c'était vraiment une relation qui s'est d'abord déroulée autour de la peinture, d'une expo, un cadre finalement assez professionnel. Et comme il n'a pas pu venir au vernissage de son exposition, il n'a pas obtenu d'autorisation de sortie. J'avais à ce moment-là, moi, fait la démarche d'aller pouvoir le filmer en prison, faire un petit interview, de façon à avoir un petit film lors du vernissage qu'il le présente aux invités. Et c'est en fait à travers les interviews faites pour ce premier petit film qu'on a commencé à parler et à établir une autre relation que celle purement professionnelle de galériste à peintre.
Si on n'avait pas donné l'autorisation à Angelo de venir assister à son vernissage, c'est qu'on le considérait comme un dangereux prisonnier?
Oui, Angelo s'est évadé par deux fois en 77 du pénitencier de Florence et en 79 de Chandolon. C'est quelqu'un qui a été mis en détention en haute sécurité assez longtemps. Et c'est vrai qu'il était considéré comme quelqu'un de dangereux. Et je crois que c'est à travers la peinture et à travers toutes les démarches qu'il a fait pour retrouver sa famille notamment, etc., qu'il a obtenu la confiance des autorités petit à petit. Et maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il obtient de temps en temps le droit de sortir pour aller à un vernissage justement, ou à la première du film au mois d'octobre.
Voilà, puisque nous qui avions vu votre film à cette époque-là, nous avons rencontré Angelo et Sabrina, il était venu avec sa fille. Parce que bon, il y a une chose qu'on devrait peut-être d'emblée préciser, c'est Angelo, c'est vrai que pour la justice, pour les limites du permis, puisque les lois, c'est un petit peu ce que ça détermine, est considéré comme un dangereux, comment dit-on, délinquant.
Oui.
Et ça, est-ce que c'est une chose qui vous a intéressé en particulier quand vous avez décidé de vous intéresser au personnage d'Angelo?
Mais c'est surtout une chose qui m'a un peu choquée, cette espèce d'image qui lui collait à la peau, parce que bon, Angelo a été condamné pour des braquages à main armée. Donc il n'a jamais été condamné pour meurtre ou violence sur qui que ce soit. Donc bon, moi je le voyais comme un braqueur. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai cherché à obtenir les autorisations pour travailler avec lui en prison, etc., on m'a dit « mais faites attention, c'est un psychopathe irrécupérable ». Et moi, cette image me choquait parce que quand je parlais avec Angelo, quand je l'avais en face de moi, il me semblait absolument pas ni violent ni si dangereux. Alors bon, je peux comprendre qu'il soit considéré comme dangereux parce qu'il s'évade, c'est un récidiviste, il cumule les braquages et les peines depuis de nombreuses années. Mais... non, j'étais surtout choquée, quoi, de cette image-là.
Et une chose qui vous a aussi choquée, si je me souviens aussi de ce que vous nous avez dit lors de la présentation de votre film, c'est qu'il y a Angelo subit une pratique carcérale qui consiste à cumuler les peines.
Oui.
Et ça, c'est une chose qui, je crois, vous a beaucoup frappée aussi.
Oui, surtout maintenant. Actuellement, on constitue l'Europe. Hein, et je trouve fou que... Angelo a pris 45 ans de prison au total parce qu'il a braqué dans 4 pays d'Europe. Et il a pris en France 10 ans, en Suisse 15 ans, en Italie 10 ans. Et maintenant, il y a la Belgique en suspens où il risque de nouveau 15 ans de prison. Et en fait, Angelo, avec 45 ans de prison pour des braquages à main armée, va faire 3 fois plus de détention que quelqu'un qui a violé ou tué. dans un seul pays. Et si Angelo avait fait les mêmes braquages, les mêmes délits dans un seul pays, il serait déjà libre. Alors c'est vrai que le cumul de peine en Europe est quelque chose qui interpelle. Remarquez que c'est encore pire aux États-Unis où à l'intérieur d'un même pays, il existe un cumul de peine entre États. Et là, ils peuvent prendre jusqu'à 200 ans de prison.
Donc ce qui est choquant, c'est surtout la disproportion d'une peine par rapport aux actes commis. C'est vrai que quand on tue quelqu'un, c'est autre chose que de voler. On ne s'en prend pas à la vie des gens, malgré tout. Et d'ailleurs, je crois que Sabrina, dans le film, sa fille dit une chose incroyable. Si mon père s'en était pris à des femmes ou des enfants, j'aurais jamais pu le rencontrer. Donc, visiblement, c'était une chose importante pour elle de savoir qu'en guillemets, son père n'avait fait que voler.
Oui, c'était une limite qu'elle avait, qui était très très claire, je crois, dès le début.
Et ça avait de l'importance pour vous aussi ?
Oui.
Vous le saviez, vous, avant de rencontrer Angelo, qu'il était responsable de braquage et non pas d'assassinat ou d'autre chose ? Vous vous étiez intéressée au délit qu'il avait commis ?
Non, je ne le savais pas. Et quand je l'ai rencontré en même temps qu'une quinzaine d'autres détenus qui participaient à cette pièce de théâtre. Donc évidemment, je ne savais pas qui était qui et qui avait fait quoi. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, moi aussi. Plus j'avançais dans la connaissance d'Angelo, plus les questions émergent. Qu'est-ce qu'il a fait exactement et comment est-ce que soi-même on peut se situer par rapport à ça? Et je pense avoir eu un peu les mêmes limites que Sabrina. C'est-à-dire qu'effectivement, si Angelo avait violé des femmes, je n'aurais absolument pas pu faire un film sur lui ou avoir des contacts avec lui pendant autant d'années. Ou s'il avait tué, ça me serait aussi très pénible. Enfin, je devrais me situer de façon différente.
Parce que ce qui est frappant aussi dans l'ensemble du film, c'est, comme on disait tout à l'heure, cette sincérité. Et vous êtes là comme tous les trois, parce qu'on vous sent très présente, même si on sait bien qu'il y a une équipe, malgré tout, qui travaille avec vous. Mais on vous sent très présente en face d'eux. Et il y a une très, très grande connivence entre les divers protagonistes. Et donc, je pense que la question de savoir ce qu'a fait l'autre est une chose qui doit rentrer à un moment donné forcément en ligne de compte, non ?
Oui, tout à fait. Bon, là, il y a eu deux démarches distinctes. J'avais donc rencontré Angelo avant que Sabrina elle-même le rencontre. Et là, j'avais fait toute une démarche d'interview d'Angelo pendant laquelle j'avais pu lui poser toutes les questions en fait, que j'avais envie de lui poser. Lui m'a raconté un certain nombre de choses. Et ensuite, bon, Sabrina a rencontré Angelo et petit à petit, on a pensé faire le film ensemble. Et Sabrina a fait la même quête que moi, probablement posé les mêmes questions que moi j'avais posées au préalable à son père. Alors c'est vrai qu'à la fois, il y avait une grande connivence, grande complicité entre moi et Sabrina. Et parfois, de ma part, il y avait une peur aussi, parce que j'en savais plus qu'elle à certains moments. Et c'était pas mon rôle de lui dévoiler des choses. Donc je savais un certain nombre de choses sur la vie d'Angelo, mais j'avais vraiment envie qu'elle le découvre par elle-même. Ou alors j'avais décidé que je n'en parlerais pas dans le film, mais que ce n'était pas à moi de les lui apprendre.
Alors avant que nous n'entrions justement dans le vif de cette rencontre entre Sabrina et Angelo par votre intermédiaire, et peut-être un peu l'histoire, comment vous êtes arrivés finalement à cette rencontre, j'aimerais que vous essayiez de m'expliquer encore un petit peu mieux ce qui vous attirait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce monde des marginaux, dans cette justement ces gens qui transgressent les limites. Il y en a qui restent dans la limite de l'autorisé, parce que malgré tout, il y a des tas de marginaux qui, comme Sabrina d'ailleurs, parce qu'elle se définit aussi elle-même comme marginale, dit-elle à un moment donné, arrivent, vivent très bien dans leur marge, et puis il y en a d'autres qui vont trop loin et qui, trop loin par rapport à des normes qui ont été fixées à un moment donné. Pourquoi cette chose-là vous intéresse, Elter ?
La transgression des limites, je crois, avant toute chose, m'intéresse. Pourquoi ? C'est toujours difficile de savoir pourquoi les choses nous passionnent. Je sais pas, c'est un attrait que j'ai, mais depuis vraiment très, très jeune, pour les gens qui vivent autrement, qui ne se contentent pas de suivre un chemin préétabli, qui cherchent. Il me semble que de transgresser les limites, c'est une façon de chercher sa propre voie, sa propre échelle de valeur, ses propres motivations. Il faut un certain courage aussi, je crois, pour s'écarter des règles établies, parce que c'est tout sûr. Devient forcément beaucoup plus compliqué, on prend des risques. Et c'est vrai, je ne sais pas, j'ai un attrait pour ces milieux-là, mais c'est difficile de... Ça sans définir l'origine ou...
Ça correspond peut-être à des mouvances ou même peut-être avez cherché, parce que vous avez aussi un parcours particulier, enfin on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais oui. Vous ne l'avez pas fait comme ça, j'ai étudié, je suis allée dans mon école de cinéma, je fais du cinéma, enfin, c'est pas si simple que ça, il y a beaucoup de virages et de contorsions.
Oui, c'est sûr, il doit y avoir identification aussi. C'est vrai que je n'ai pas non plus choisi une voie toute tracée.
Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma finalement? Parce que vous étiez partie au Mexique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 17 ans, 18 ans. Et puis, à un moment donné, vous revenez en Europe et vous avez envie de faire du cinéma.
Bon, alors moi, j'avais toujours écrit et dessiné dans mon adolescence. Je voulais un métier qui me laisse extrêmement libre, qui me permette de voyager, de rencontrer plein de gens. Enfin, justement, qui me permette...
Déjà la marge, ça.
De vivre un peu en marge. Et en fait, au Mexique, j'ai eu l'occasion d'assister à de nombreux tournages de publicité. Et c'est en assistant à ces tournages que je me suis dit, mais ça, c'est un métier extraordinaire. Parce que je peux à la fois écrire, dessiner, vivre une certaine liberté, changer de pays quand je le désire. Enfin... Donc, je suis rentrée en Europe, en fait, pour faire une école de cinéma.
Et ça s'est avéré aussi facile que vous venez de le décrire, la suite des événements.
Non,
ça a l'air très facile quand vous dites ça.
C'est un peu plus compliqué. Par contre, c'est vrai que c'est un mode de vie qui me plaît. C'est vrai que je voyage. C'est vrai que je crois que c'est une chance extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens comme Angelo et Sabrina et de partager une année de sa vie avec eux. Par contre, c'est vrai que c'est pas facile de faire du cinéma dans un petit pays, trilingue en plus. Il faut se battre.
Et ça, vous avez l'impression que c'est spécifique à la Suisse? Parce que vous dites, dans ce petit pays trilingue, vous avez l'impression qu'ailleurs, ça l'est moins. Vous qui avez pu voyager et voir différentes situations.
Non, je pense
situations.
Que c'est un métier qui est difficile, qui demande beaucoup d'énergie partout. Mais en Suisse, c'est quand même... C'est vrai que le nombre d'habitants plus le trilinguisme nous complique la vie. Ça, c'est certain. Il y a peu d'argent pour la culture.
Et l'intérêt au documentaire, parce que vous n'avez non plus pas choisi la facilité en vous lançant dans un documentaire. On voit tellement rarement les documentaires dans les salles de cinéma. Est-ce qu'il, d'emblée, faire un film en se disant où est-ce qu'il va être vu, à part les festivals peut-être?
Oui, alors là, vous mettez le doigt sur un sujet qui préoccupe beaucoup les cinéastes. Effectivement, on aimerait bien des salles de cinéma qui projettent des documentaires d'une heure. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques salles, hein, un peu marginales, tiens, elles aussi, comme la Strada à Genève, le Bellevue, le City Puy. Mais ce n'est pas facile de diffuser ces documentaires en dehors des festivals et de la télévision.
Voilà, alors si, entre autres, précisons-le, bah, c'est peut-être juste le mot avant que nous fassions une petite pause musicale. C'est vrai que si Denise ayant eu la gentillesse de se déplacer si vite, parce que notre contact s'est fait très rapidement, c'est qu'entre autres, il y a un objectif, c'est que nous aimerions que vous regardiez le film Mon père, c'est un jeu maudit, parce qu'il va être diffusé à la télévision suisse romande dans le cadre de Temps présent le jeudi 29 janvier, c'est ça?
29 décembre.
29 décembre, janvier.
Dans quelques jours.
29 décembre. Nous répéterons la date pour éviter la confusion. Je le dis déjà, jeudi 29 décembre, oui. Alors, voilà, nous allons après. Notre rencontre avec diverses chanteuses italiennes pour ponctuer nos propos cet après-midi. Et tout de suite, ce sera Gianna Nannini. Eh bien, nous allons repartir dans cette rencontre à trois. Angelo, Sabrina et Denise Gillian.
Finché vedi